Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Très content de vous retrouver pour cette 26e journée de notre beau championnat de Ligue 1 Uber Eats, avant une trêve plutôt internationale qui va encore nous combler de matchs tout aussi intéressants. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai deux personnes qui se font rares, mais à chaque fois je les ai, c'est un vrai bonheur. Déjà la première personne, puisque ça fait un petit moment, Steve, l'homme qui s'est baigné nu dans la canne-bière, selon la légende. Comment tu vas, Steve?
Ah, c'est plus la vistule pour moi, ça fait un peu long la canne-bière. très très heureux
d'être avec
vous.
C'est relié.
Très très heureux d'être sur ce podcast et parler Ligue 1, c'est une de mes choses favorites, donc très heureux de le faire avec vous.
Parfait, mais je suis très content aussi de te retrouver avec nous, Steve. Et bien sûr, le deuxième amigo, ce qu'on n'a plus vu depuis quelques podcasts, deux, trois petits podcasts, Thibaut, l'homme au gros pec. Comment tu vas, Thibaut?
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et ceux qui écoutent le podcast, bien évidemment. Ça va. Là, je viens de rentrer du boulot, mais toujours un plaisir de parler de Ligue 1 avec vous et sur Stadium Ligue 1. Donc voilà, on est là, on est prêt, tout simplement.
Nickel. Bah, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui, les amigos. On va parler de deux gros matchs. Alors, on fait une petite entorse. Alors normalement, on essaye de diversifier au niveau des équipes qu'on aborde en prime time, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, on va reparler d'une équipe qu'on a déjà parlé il y a déjà deux podcasts, sur deux podcasts, Lens qui affronte Nice. Pourquoi ce match? Parce que Nice est, on va dire, dans une période très compliquée, et il me semblait aussi important de parler de cette équipe à ce moment-là de la saison, alors qu'on arrive à la fin de la saison et que les places européennes se jouent. Et dans un deuxième temps, nous parlerons aussi de deux équipes, plein de surprises, et dont une dont s'est beaucoup moqué quand elle a changé de coach. Bien sûr, je veux bien parler de Rennes contre l'Olympique de Marseille. Donc on va tout de suite commencer avec notre premier match, donc Lens-Nice. Messieurs, je vous rappelle ce qui s'était passé au match aller. Lens-Nice. Nice s'était imposé 2-0 face à Lens. C'était encore le moment où Nice marchait sur l'eau. Il me semble que là, ils n'avaient pas eu encore leur première défaite face à Le Havre, ou peut-être qu'elle était déjà arrivée. Je me souviens plus de l'ordre. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'on est dans un contexte complètement différent entre ces deux équipes, hein, parce que aujourd'hui, Nice est une équipe qui est, on peut se le dire, en complète difficulté, et on va surtout se poser la question, qu'est-ce qui arrive à cette équipe niçoise? Mais dans un premier temps, on va commencer avec Lens. Alors, juste pour vous le rappeler rapidement, avant de vous lancer sur le sujet, messieurs, Lens, qui, elle, est une équipe qui est très en forme en ce moment, qui s'est imposée non sans mal face à l'équipe brestoise à domicile 1-0, une équipe brestoise qui est deuxième du championnat, hein. On le rappelle encore, Lens, une équipe qui nous inquiétait en début de saison, qui avait même touché le fond du championnat, se retrouve actuellement à la cinquième place. Thibaut, on va commencer par toi, cette équipe lensoise. Dans ce match, première question, est-ce que Lens va enfoncer le clou?
Lens vont-ils enfoncer le clou? Effectivement, je dirais que c'est possible s'ils jouent comme les deux derniers matchs devant leurs supporters. Il n'y a pas beaucoup de joueurs blessés en plus du côté lensois, je crois. Donc faudra rester prudent pour les lensois, je pense, car Nice quand même est une équipe joueuse aussi. Et s'ils ont pas et ils sont pas en haut du classement pour rien. Je crois que c'est il y a aussi l'effet Lens, quand ils jouent à domicile, généralement ils laissent rarement des points. Ça sera un match sympathique à regarder avec de l'enjeu, les places européennes au bout pour les Lensois et pour les Niçois aussi. Donc voilà, ces deux équipes qui sont quasiment l'une des les deux meilleures défenses des, du championnat, hein, Nice et Lens. Donc je pense que même si c'est des bonnes défenses, ça va être un match qui sera un peu ouvert. Il risque d'avoir des buts, voilà. Et j'espère que ça sera pas un match fermé justement. Donc on va voir ça tout, on va voir ça effectivement. Dimanche, c'est dimanche à 17h je crois le match, hein, s'il me semble, si je dis pas de bêtises, donc ça va être un match accroché. Voilà, c'est deux équipes qui ne veulent pas laisser des points et voilà, ça joue les places européennes quoi, tout simplement.
Alors juste pour rappeler avant de te lancer sur le sujet aussi, Steve, cette équipe Lensois, c'est quand même une équipe qui est rentrée dans un calendrier très compliqué. C'est-à-dire qu'elle allait affronter des concurrents directs pour les places européennes. Allez, on peut considérer Lyon en tirant la corde un peu comme un concurrent direct, hein, mais Lens a fait quand même match nul face à Reims. Ils perdent 2-3 face à Monaco, ils gagnent 3-0 face à Lens, ils gagnent 1-0 face à Brest. Finalement, le bilan n'est pas si mal que ça. Derrière, voilà, ils jouent contre Nice, ils vont jouer contre Lens après la trêve internationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que cette clé de cette bonne forme lensoise, c'est que Franck Hez a enfin trouvé son 11 titulaire? On le voit là en 2024, des joueurs comme Da Costa qui sont sortis d'un peu nulle part pour prendre cette place de titulaire en attaque et former ce trio avec Wai et Sotoka. On a un milieu très solide avec notamment El Ainaoui qui a été justement aligné avec Mendy lors du dernier match, et puis cette défense qui ne bouge pas trop, hein, que ce soit Danso, Gradit ou Medina. Est-ce qu'au final c'est cette clé de cette réussite lensoise?
Moi, je pense juste un petit pour corriger Chips. Le match, c'est samedi à 21h. C'est pas.
21h,
c'est ça. Ouais, c'est samedi à 21h. Donc, du coup, ça va être un beau match pour clôturer le samedi soir. Mais du coup, pour te répondre, Desti, je pense que la clé, comme tu l'as dit, c'est ce milieu de terrain. Hein, c'est surtout ce trident d'attaque avec Wai, Sotoka et Costa qui en dit juste derrière. Trouver ce système, remettre les joueurs psychologiquement dans les bons rails, ça a été la victoire de Franck Hez après ce début de saison catastrophique. Des joueurs qui en début de saison avaient beaucoup de mal, comme Danso, comme Frankowski, comme Wai, là se réveillent à nouveau, ont repris un peu du plan de la bête. C'est assez impressionnant, mais je suis assez mitigé après ce match contre Brest, parce que c'est une victoire lensoise, mais ils se sont fait très très peur. Il y a un ou deux poteaux, il y a plusieurs frappes cadrées. Samba finit homme du match parce qu'il sort un match stratosphérique. Donc du coup, la victoire contre Brest n'est pas non plus à prendre en référence, mais ces trois points sur un prétendant direct à l'Europe, comme tu l'as répété. Donc je suis très satisfait et cette équipe lensoise. Et quand j'avais mis dans mes tops demi-saison, tu m'étais un peu tombé dessus. Mais là, ça confirme un peu ce que je pensais.
Ouais, c'est vrai que, comme je l'ai dit en début de podcast, que surtout quand on commence le podcast, Lens est très mal placé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je pensais qu'ils étaient vraiment, ils ont du mal à digérer leur saison dernière et les différents changements. Mais pour rebondir un peu ce que tu dis et lancer Thibaut sur la question, est-ce que justement, malgré cette bonne forme lensoise, est-ce que cette défense lensoise, elle serait pas non plus quand même assez friable? Aujourd'hui, alors je m'explique, aujourd'hui Lens c'est 4 clean sheets à domicile, c'est quand même 12 buts encaissés à domicile aussi, c'est une équipe qui commet beaucoup de fautes, 326, qui a eu 56 cartons jaunes. Medina, c'est l'un des joueurs qui a eu le plus de cartons jaunes en Ligue 1 avec 9, ils ont eu 4 cartons rouges. Est-ce que, mine de rien, cette défense lensoise, elle n'est pas encore friable? Ce trio, on va dire, Danso, Gradit, Medina, est friable? Ou même, est-ce qu'on peut parler d'un Samba qui est aussi moins impérial? que l'année dernière et qui commet plus d'erreurs. On l'a vu notamment, c'était face à Monaco. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tibbs?
Oui, je suis d'accord, mais moi je pense que c'est plus physiquement qu'ils ont un peu péché dans la défense, parce que quand même ils sont, quand je regarde, ils sont quand même à 24 buts encaissés. C'est pas non plus ridicule, ils sont pas dans les derniers dans le niveau des buts encaissés, donc ils sont pas non plus ridicules, mais il faut qu'ils fassent attention. Je pense que là, le fait qu'ils soient sortis des coupes en général, ça va un peu les faire souffler, je pense, derrière, parce que Francaise, je voyais, il mettait souvent la même défense. Danzo, il a joué quasiment tous les matchs. Gradit, pareil. Donc, du coup, je pense que effectivement, il peut y avoir cet effet un peu. Il y a eu un peu cet effet pendant que Lens a enchaîné les matchs. Peut-être cet effet, ce coup de fatigue, comme tu dis. Et il se fait qu'on a vu des petites erreurs derrière, c'est vrai, de temps en temps, de Brice Samba, de Danzo, mais ça ne fait pas d'eux des joueurs qu'il faut retirer. Non, non, loin de là. Ça reste toujours des pions importants de l'effectif lensois. Et je pense que c'est même des joueurs importants qu'il faut laisser. Mais des fois, je pense qu'il faut les faire souffler, effectivement. Là, je pense que comme il y a eu moins de matchs, effectivement, ils ont eu peut-être l'occasion un peu de souffler, de reposer les organismes. Donc du coup, je pense que là, ils sont sur deux victoires, comme tu as dit, une belle victoire contre Lyon, alors qu'on les attendait vraiment pas du tout, vu que Lyon était dans un beau momentum. Effectivement, ils ont stoppé la lancée lyonnaise, et pareil, ils ont gagné contre Brest, même si ça a été poussif. Voilà, je pense que Lens, ils ont repris une marche en avant là, et qui, je pense que derrière, ça peut être solide. Alors effectivement, toujours cette défense à 3 là, le trident derrière, ça marche en effet, mais je pense que quand ça enchaîne les matchs, effectivement, c'est un peu du mal. Mais là, quand il y a des matchs, ils jouent une fois toutes les semaines, je pense que ça devrait aller physiquement pour les Lensois. Donc à voir, d'accord.
Et je pense qu'il n'a pas trop le choix, Francaise, malheureusement.
Parce que bon,
derrière, tout le monde est blessé. Makado est blessé, Aïdara est blessé. Comment il s'appelle le... Ah, j'ai oublié son nom. L'équatorien.
J'allais dire Chavez, mais non.
Oui, c'est ça, c'est Chavez, oui. Oui, c'est Chavez, ah, c'est ça, exactement, oui. Ouais, et tu vois, ils sont tous blessés. Donc, du coup, la défense à 3 avec Danso, Medina, Gradit. C'est un peu la seule solution, malheureusement, qu'il a à son arc, Francaise. Donc, pour ça que, comme tu l'as dit, ils ont joué toutes les minutes quasiment, parce qu'il n'y a que eux de dispo. Et pour ça que je pensais que Lens allait recruter peut-être un décès supplémentaire pour faire un peu tourner et souffler. Ils ne l'ont pas fait, donc on verra bien ce que ça va donner. Heureusement que le calendrier s'allège avec la perte des coupes.
Ok. Et donc, au final, vous, quelle est la clé? Quelle est la clé rapidement avant de passer sur Nice pour voir cette équipe lensoise gagner? Parce que l'un des points aussi qui est important et qui me fait tilter aussi sur cette équipe lensoise, c'est que elle a du mal à être à réaction. C'est une équipe, quand elle prend des buts derrière, on l'a vu notamment face à Monaco où elle était très vite en difficulté, et au final, quand on pensait qu'elle était revenue, bah il y a ce but de Minamino qui sort un peu de nulle part. Mais généralement, juste pour vous donner un peu une stat, à domicile, quand Lens est mené à la mi-temps, c'est 1 nul et 3 défaites. Et quand Lens encaisse le premier but, c'est 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc, alors, c'est peut-être trivial en se disant, il suffit qu'ils marquent en premier et puis ils vont gagner. Oui, bien sûr. mais aujourd'hui, face à cette équipe niçoise, pour vous, quelle est la clé pour assurer leur victoire? Pour vous, quel va être l'aspect sur lequel il faudra appuyer pour justement s'assurer cette victoire à domicile? On va commencer par toi, Thibaut.
Tu parles de Lens, pour assurer la victoire à domicile de Lens, c'est ça?
C'est ça.
Tu es en train de dire. Ok. Comme j'ai dit, faudra rester prudent pour les Lensois. Comme j'ai dit, car Nice, c'est quand même une équipe joueuse, même s'ils ont perdu leurs deux derniers matchs, toutes compétitions confondues. Faut quand même rester prudent pour les Lensois. Et c'est pas une équipe, voilà, ils sont pas dans le haut du classement pour rien, les Niçois. Donc en plus, je crois que c'est Mofi qui marque souvent contre Lens. En plus, d'après notre ami Corentin et supporter Lensois. Voilà, donc petite dédicace à lui. Donc il faudra vraiment être prudent pour les 100 et or, car Nice, malade, mais peut-être très dangereux. Ça sera un match sympathique à regarder, effectivement. Donc après, si Nice joue comme en fin de première période au Parc des Princes mercredi dernier là, ça peut être dangereux pour les Lensois. Donc faut qu'ils restent prudents et qui prennent ce match pas à la légère, on va dire. Voilà.
Okay.
Donc les clés, je dirais que c'est de garder le ballon déjà et de garder le ballon au maximum, essayer de temporiser, et même s'ils ont pas le ballon, essayer de jouer les contres comme ils ont fait au Parc des Princes en allant sur les côtés et avec la board en finition devant, ça peut aller très vite. Donc voilà, je dirais qu'ils paniquent pas et puis ça devrait, enfin voilà. De toute façon, c'est l'équipe qui aura le plus le ballon qui va avoir le plus d'occasions, forcément. Donc, logique, et voilà.
Ok. Du coup, Steve, toi, je vais te lancer. On va enchaîner sur Nice. Vu que, voilà, une belle conclusion de Thibaut sur Lens. Et justement, enchaîner sur Nice et essayer de comprendre les mots niçois. Juste pour te donner un petit contexte, Nice, en 2024, ils sont 17e. C'est une victoire, 2 nuls et 5 défaites. Ils ont pris 12 buts et ils en ont mis 9, ce qui était encore invraisemblable en 2023 quand on comptait une défaite. Et là, en 2024, ils sont déjà à 6 défaites, toutes compétitions confondues.
Bulka a pris 12 buts.
Bulka a pris 12 buts, le meilleur gardien de France.
Le meilleur gardien de France. Terrible.
Du coup, moi, Steve, la question que j'ai envie de te poser, quel est le problème à Nice? Qu'est-ce qui se passe?
Bulka, meilleur gardien de France, je le dis, je le répète, et je le répéterai à chaque podcast s'il le faut. c'est peut-être le sang patriotique polonais qui parle, je ne sais pas, mais Bulka, meilleur gardien de France, et c'est dit. Je pense que les mots niçois sont sur plusieurs niveaux. Mais principalement, c'est cette défense qui est carbo, en fait. Les joueurs qui ont le plus de minutes côté niçois, c'est Dante, Barre et Todibo. Et c'est les trois joueurs qui sont le plus souvent fautifs ou reprochables sur les buts et sur les défaites niçoises. On l'a vu contre Toulouse, hein, avec Dalinga qui fait une course de milieu de terrain, il passe dans son dos, qui ne regarde même pas dans son dos. Pour moi, c'est majoritairement cet aspect-là. Et on le voit parce que Nice prend beaucoup de buts. C'est qu'il y a un problème défensif. J'ai pas la science infuse, mais c'est qu'il y a un problème qui vient d'ici. Le problème, c'est voilà, c'est cette défense qui est carbo. T'as Dante, 40 ans. Merci pour les travaux. Hein, c'est gentil. Mais arrête.
Ils voulaient pas que Todibo parte, les supporters, là. Ils ont pas fait ils ont pas dit à Todibo de partir, ou je sais plus.
Il y a eu une petite bisbille avec les supporters, ouais, à la fin du match, ouais. Face à Montpellier.
Ouais, et puis après, Todibo, ils
sont un peu en zone de turbulence en ce moment, Nice, mais bon.
Ils ont reçu des offres pour Todibo. Il y a des offres qui vont arriver, donc Todibo va partir. Dante, 40 ans, c'est gentil, mais tu traînes une charrette, après même pas une heure, t'as plus de poumons, donc arrête. Je pense que le problème vient de là, parce que sur beaucoup de buts niçois, c'est des problèmes à gérer la profondeur, c'est des problèmes à gérer le mec qui part dans le dos. On le voit systématiquement, c'est parfois en une, deux, trois passes, le ballon il est derrière et la ligne n'a pas bougé, mais l'attaquant il est parti dans le dos. Parce que les mecs n'ont pas le coffre, ou n'ont pas les jambes pour suivre, t'as l'impression. Donc je pense que principalement ça vient de là. Et après il y a un peu des problèmes mentaux.
Derrière t'as des mecs qui sont pas mauvais. Bard, mais moi j'aime bien le petit Bard derrière là. Je l'ai vu jouer là contre le PSG là, il était pas mauvais sur le côté. Il faisait des petites.
Il est pas mauvais certes, mais contre Toulouse, non, contre Montpellier. Je sais plus c'est quel match. C'est Toulouse ou Montpellier, je sais plus. Il est tout seul, dégagé, il essaie de vouloir la jouer. Au lieu d'essayer de vouloir la jouer, il essaie de la jouer, il se fait prendre dans les pieds et ça part dans le dos parce qu'après les mecs derrière ils n'arrivent pas à suivre. Donc je pense qu'en fait, c'est cette ligne défensive, c'est cette défense à 3-5 là, qui pose problème parce que les mecs, ils gèrent pas la profondeur. Et ça vient principalement de là, et les problèmes mentaux aussi, je trouve, parce que tu as beaucoup de problèmes d'attitude. Ça rate une passe, ça va s'énerver, ça rate un contrôle, ça va s'énerver. Au lieu d'essayer de s'encourager en se disant qu'on est dans une mauvaise passe, etc., non, ça s'enfonce parce que les mecs sont à bout mentalement. Donc est-ce que c'est le fait d'avoir été deuxième, de cette vue un peu trop beau, d'être un peu ce challenger, et que là, la mauvaise passe commence à arriver, que derrière, mentalement, ça craque? C'est une équipe, somme toute, relativement jeune, même si tu as beaucoup des gens d'expérience, mais Barre, c'est jeune, Thuram, c'est jeune, Mofi, c'est jeune, Boga, je ne sais plus quel âge il a, Guessant, c'est jeune. Donc en fait, c'est des joueurs qui n'ont pas trop cette expérience et ce truc de jouer le
Ouais, c'est
podium de
un...
Ligue 1. Donc est-ce que ça a craqué mentalement? Possible.
Alors, pour
Moi, j'ai une
compléter ce que
question.
tu as
Moi, j'ai une
dit,
question.
attends, juste pour compléter ce
Yes.
que tu as dit, Steve, c'était contre Toulouse et c'est pas Bard qui perd la balle, c'est Perrault. Et justement, Bard vient
Ah,
juste de
ok.
sortir du terrain et Perrault, c'est son premier ballon et il perd le ballon justement sur le côté. En plus, et après,
Ok,
c'était.
bye bye alors.
Je sais plus quel joueur toulousain qui l'avoue à Dalinga, mais ça peut être aussi l'une des problématiques dans le sens où, bah voilà,
Y a pas
ils
de
sont
profondeur de
leur,
banc.
il n'y a pas de profondeur de banc. Et un point aussi, bah, je vais te lancer dessus, Thibaut, et tu pourras justement après poser ta question. Il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir, c'est est-ce que finalement cette équipe n'est-elle pas trop jeune? Parce qu'on a une moyenne d'âge de 24 ans. On le disait, on a Dante qui a 40 ans, Todibo qui en a 24, mais en soi il a pas vraiment connu de voilà de grandes choses. Hein. Il est quelle est les prémices de sa carrière. Tu le disais, Bard, c'est 23 ans, pareil, il n'a pas connu grandes choses. On a du Enchaminé, 25 ans, qui n'a pas connu grand chose. Khéphren Thuram, pareil, 22 ans, très jeune. Alors après on a Morgan Sanson, 29 ans, qui a un peu plus l'expérience de la Ligue 1, mais sans plus. Devant, tu parlais de Boga. Boga, c'est 27 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait à
Vingt-sept,
l'Atalanta? On s'en souvient pas tant que ça. Ils sont allés recruter
regarde.
Mohamed Ali
Diop,
Chow.
23, Ali Ekio, c'est 20
C'est
ans.
ça, 20 ans.
Guessant, c'est
Mofi,
vingt-deux.
24
Final,
ans.
le plus vieux, c'est Laborde, 29. C'est lui qui a forte
Et
expérience, en vrai, mais bon.
attendez, attendez, et on a Mofi, 24 ans, qui est venu de Lorient aussi, qui fait partie de ces grands, enfin, ces attaquants prometteurs qu'on a réussi à garder en Ligue 1, comme un Wahi ou un Balogun, et Laborde, 29 ans. Alors, c'est vrai que par ligne, il y a un joueur, on va dire, d'expérience, entre guillemets, mais est-ce que finalement, cette équipe de 24 ans de moyenne d'âge, et même un coach qui est très très jeune, un coach qui a à peine 30
Ouais,
ans,
c'est vrai
est-ce
en
qu'ils ne
plus.
sont pas trop immatures, Thibaut?
Ben, j'ai envie de te dire oui, en vrai. C'est vrai que là, on peut le voir vraiment. Au bout d'un moment, on peut voir que la jeunesse, là, ça peut-être jouer, effectivement, sur ces lignes-là, notamment derrière. Même s'ils ont Dante, effectivement, il a plus ses jambes de 20 ans. Après, c'est vrai que c'est au milieu, c'est assez jeune, 24 ans de moyenne d'âge à peu près. Donc, moi, je suis assez d'accord. Donc peut-être est-ce qu'ils sont pareils des fois. Des fois, c'est pour ça que des fois ils ont des sursauts d'orgueil peut-être. Donc, mais est-ce que c'est peut-être pas voilà, tout simplement l'expérience, voilà, qu'il leur faut à ces Niçois. Peut-être que effectivement là, ils ont atteint leurs limites, hein. Effectivement, la fameuse question que on pose à Mbappé, vous pensez que Nice vous fait peur cette saison? Moi, ouais, j'ai envie de répondre, je pense pas. Voilà, donc voilà. Mais après ça reste une belle équipe à prendre au sérieux, mine de rien, même s'ils sont un peu un peu dans une zone en ce moment qui est pas très très on va dire adéquate pour eux, mais effectivement, c'est sûr qu'on attend mieux d'eux, mais après, voilà, c'est l'expérience, des fois, paye un peu plus que la jeunesse, effectivement.
Steve, t'as quelque chose à rajouter sur cette équipe niçoise?
Pas vraiment sur l'équipe, mais sur le match, parce que normalement, Boulka devrait être absent, donc du coup, ça pourrait peser aussi dans la balance. savoir est-ce que Nice peut avoir un rebond à Lens ou pas. Ils auront possiblement pas le meilleur gardien de France.
Pourquoi Bulka, il a une
Bah,
blessure
il... t'as eu... Ouais, blessure
bah,
au nez
il s'est pété le nez
Ah oui, c'est vrai, il
était
en sang.
Ah ouais, c'est une grosse blessure.
Il y a une fracture du nez, mais sans déplacement de la cloison nasale, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, parce qu'ils en parlaient dans les
masque,
médias polonais. Possiblement, il pourrait jouer, mais est-ce que la Ligue voudra prendre le risque? On ne sait pas, on verra bien.
Ok.
Bien, ah, sûr, l'information, c'est une vraie info, du coup, là. Parce que s'ils n'ont pas vu le cas,
Il est incertain.
Ça peut...
Ouais.
Ça peut être compliqué pour eux, hein. S'ils prennent un peu la foudre.
Bah, enfin, surtout bon. Le point fort niçois a toujours été la défense, et là d'un coup, ton meilleur gardien, et déjà que ta défense boit l'eau, et en plus si t'as pas ton gardien au top de sa forme, et ton meilleur gardien, ouais, ça peut être problématique. Messieurs, on va passer au pronostic. Thibaut. Ton petit prono pour ce petit match du samedi soir?
Moi, je vois une victoire de Lens 1-0. 1-0 sur le plus petit écart. Je vois quand même un match, mine de rien. Enfin, c'est deux équipes quand même assez équilibrées, je pense. Moi, je vois quand même une victoire de Lens. En plus, avec l'absence de Bulka, effectivement, ça peut jouer en la faveur des Lensois, et peut-être que les jeunes aiglons seront électrisés par l'ambiance au stade Bollaert, et ils seront un peu pétrifiés, on va dire. Donc moi, je vois une victoire de Lens qui continue sur sa bonne lancée. Voilà, 1-0 pour Lens.
Ok. Et toi, mon Steve?
Moi, j'ai réussi une victoire lensoise qui voudra enchaîner et essayer de recoller à Lille et Monaco, donc victoire lensoise, ouais, 1-0. Je suis Chiefs sur ce prono.
Ok. Bon, bah, très bien, très très bien. Merci, messieurs. On va passer du coup à notre second match. Hein. Un match aussi. C'est vrai que ce week-end, c'est vraiment un week-end. Enfin, en tout cas, nous, on se concentre ce week-end sur cette course à l'Europe, hein, mais vous inquiétez pas, messieurs et mesdames les auditeurs et les auditrices, avec cette fin de saison qui approche, on va aussi s'intéresser aux équipes relégables, parce que on n'en parle pas, mais dans le fond du championnat, là, il y a une bataille pour rester en Ligue 1 qui est en train de se mener. Ah, mamma mia,
ça serait bien de parler un peu des clubs du bas de tableau. C'est vrai.
Ouais, mais complètement. Mais on va en parler là. Cette fin de saison qui approche, on a des scénarios là. Je pense qu'il y a des supporters qui vont pleurer. Mais bref, retournons sur notre direct et sur notre match du week-end. Rennes versus Marseille. Ah là là, Rennes-Marseille, c'est quand même deux équipes qui sont bien en forme, notamment l'équipe rennoise. Hein, je sais pas. Rennaise, pardon, rennoise, qu'est-ce que je dis, moi, messieurs, notre équipe rennaise.
Ça, c'est Reims.
je sais pas si vous le savez, mais Rennes, en 2024, est première du championnat. C'est une équipe qui est en forme, qui renaît de ses cendres, on va dire, même si je trouvais qu'elle se débrouillait pas si mal que ça, mais voilà, elle avait besoin de se lancer, d'avoir ce momentum. Elle a enfin ce momentum. On s'en souvient au match aller, Marseille s'était imposé 2-0 face à Rennes. À cette époque-là, il y avait encore Mister Gattuso sur le banc marseillais. Les choses ont légèrement changé entre-temps. Hein. On en a parlé, d'ailleurs, je pense que vous étiez avec moi à cette époque-là quand Monsieur Gasset avec Monsieur Printemps sont arrivés sur le banc marseillais. On était un peu inquiets, surtout que Monsieur Gasset venait d'être licencié par sa sélection et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, on va dire que le foot nous a donné tort. Le foot est cruel et n'hésite pas.
Ça peut aller très vite.
Ça peut aller très vite. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on aime, justement. On va commencer par l'équipe l'équipe qui reçoit, on va dire, hein, l'équipe rennaise. Alors pareil, je vais juste vous remettre dans le bain et vous rappeler ce qui s'est passé avant. Donc Rennes a fait match nul face à Lille au match précédent. Rennes qui menait 2-0, mais qui au cours de match, petit à petit, a laissé l'équipe lilloise revenir et finalement finir le score sur un match nul. Alors peut-être que Rennes ne voulait pas gâcher la fête d'Eden Hazard, on va sortir ça comme excuse pour justifier, mais c'est vrai que Rennes a un peu de mal parce qu'elle avait aussi perdu le match d'avant face à Lorient. Donc on va commencer par toi Thibaut, comme ça on laissera Steve commencer sur Marseille, mais comme Marseille, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que doit faire Rennes pour mettre fin à ce coup de mou, ce petit coup de mou qu'ils ressentent là.
Bah écoute, ce que doit faire Rennes, après ils sont quand même, c'est quand même un nul encourageant mine de rien. D'après Calimuendo, hein, il y a pas tout à jeter, parce que moi j'ai vu le match, il y a pas tout à jeter sur ce match-là, même si voilà ils gagnaient 2-0. Après c'est quand même, enfin Lille a eu des occasions, Rennes a eu des occasions. Enfin, je veux dire, s'il y a 2-0 de l'autre côté et qu'il se passe la même chose, je veux dire, c'est pareil. Donc, voilà, 2-0, mais effectivement, il n'y a pas tout à jeter. Par contre, là, il y a la défaite aussi contre Lorient qui me pose un peu plus de problèmes. Voilà, mais ça reste encore quand même poussif, Rennes. Même si, effectivement, en 2024, c'est bien, ça reste quand même Rennes. Et on sait très bien qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, donc c'est Rennes quoi. Quand ils sont sérieux, c'est une équipe difficile à manœuvrer, mais quand ils retombent dans leur travers, ça donne des défaites et des nuls, alors qu'ils sont largement au-dessus. Donc je suis curieux de voir comment ils vont réagir contre l'OM à 17h, surtout que c'est une équipe qui leur réussit pas forcément. Donc à voir, franchement à voir.
Steve, pareil, je te pose cette même question, hein, et puis c'est vrai que c'est très bien de le noter, hein, c'est vrai que Marseille s'est souvent imposé face à cette équipe rennaise, que ce soit en championnat ou même en Coupe de France, comme on l'a vu l'année dernière. Alors cette année, Rennes a battu Marseille au tir au but, mais Steve, je te pose la même question, qu'est-ce que doit faire Rennes pour justement mettre fin à ce coup de mou?
Reproduire le football qui produisait début février. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci, au revoir. On peut arrêter.
c'est ça. Allez, boum, on ferme la boutique.
Ah, c'est juste que voilà, ils ont un peu une mauvaise passe. Et encore, c'est pas une mauvaise passe. Ils ont enchaîné deux résultats moyens contre deux équipes joueuses. Le match contre Lille, comme l'a dit Calimuendo, il n'y a pas tout qui est acheté. Mais il y avait une très bonne partie quand même, parce que tu gagnes 2-0, tu te fais revenir facilement en plus au score par Lille. Ils ont fait un peu peur, même s'ils ont produit pas mal de belles choses. Rennes, on sait que c'est un peu cette équipe qui aime être haut sur le terrain, qui aime presser très haut. On l'a vu, hein, le but de Calimuendo contre le LOSC, hein, ça vient d'une pression, une touche, bim, poteau rentrant, voilà. C'est à la fois très agressif et très létal quand ça veut, mais par contre cette agressivité, pardon, est à double tranchant, parce que ils sont tellement hauts sur le terrain que parfois en quelques passes c'est parti dans leur dos et on arrive devant le but de d'Il Fenomeno. Donc c'est un peu compliqué de gérer cette agressivité et cette ligne qui peut être parfois un peu très haute, mais je pense que si ils se calment, s'ils pensent calmement à jouer au ballon, surtout que il ne reste que la Coupe de France pour Rennes à jouer, donc du coup ça va leur faire un calendrier relativement allégé. Donc là, après cette petite mauvaise passe qui n'en est pas vraiment une, parce que le résultat contre Lorient est un peu non flatteur, alors que le match lui est totalement rennais. C'est Mandanda qui fait une erreur, une faute de main sur le premier but, sur le deuxième, bon c'est un peu de mal à gérer la profondeur, comme je l'ai dit juste à l'instant. Mais sinon, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour Rennes, je trouve.
Mmh. Et est-ce que justement ce renouveau rennais en 2024 ne serait pas lié justement à la renaissance de ces joueurs qui, en début de saison, qui sont arrivés et sur qui on avait beaucoup d'attentes et qui n'ont pas pu répondre, y répondent enfin? Est-ce que c'est bah, justement la qualité de ce coach qui a permis à certains joueurs, bah, je viens de le dire, Kalimuendo, qui au début de saison bah, avait énormément de mal à stater, même s'il faisait beaucoup d'efforts, mais il avait du mal à faire des statistiques. On a vu Ludovic Blas aussi qui a eu une période de creux, même si il a beaucoup joué en début de saison, mais d'un coup, voilà, autour de, on va dire, la 13e et la 20e journée, il était beaucoup moins titulaire. Là, on le revoit titulaire de nouveau, ou même un Bourigeaud qui devient étincelant. Est-ce que c'est pas cette marque de fabrique, justement, du coach rennais? Est-ce que c'est pas ça, ce point fort, et qui peut permettre à Rennes de battre cette équipe marseillaise, justement, en imposant cette intensité qui lui réussit actuellement, Thibaut?
Effectivement, moi, non, mais moi je pense qu'ils peuvent. Après, ils ont quand même il y a beaucoup de talent hein, dans cette équipe rennaise, mine de rien. On va pas tout jeter. Mais en face, je pense qu'ils sont pareil. C'est une équipe bien en place, Marseille là depuis 5 matchs avec l'arrivée de Gasset. Je pense que c'est quand même assez solide tactiquement. Notre ami Jean-Louis, je pense
On va
il va
parler
quand
de Marseille
même.
après, on va parler de
Ah
Marseille
oui,
après, on va
pardon.
sur Rennes.
Non, mais c'est ce que je veux dire. En gros, ce que je veux dire, c'est que Rennes, je pense qu'ils vont sur ce match-là, je pense qu'ils vont avoir du mal. Rennes, pardon. Et après, effectivement, même s'ils ont des individualités, Blas, Bourigeaud, Kalimuendo, ils ont toujours eu une équipe un peu comme ça, avec des bons joueurs, mais il leur manque juste. J'ai jamais su vraiment ce qui leur manquait à cette équipe rennaise au final. Mais ils doivent quand même, il leur manque quelque chose, un peu plus tueur dans les moments où il faut plier le match. Il faut Kalimuendo, c'est encore quand même 22 ans, un peu jeune pareil, même s'il marque, hein, ils ont quand même toujours du mal à plier les matchs. Bon, même là, si en ce moment bah, ils jouent bien, hein, mais tu vois, sur des matchs comme Lorient, des matchs comme ça, comme Lille, ils doivent pas perdre des points sur ces matchs-là. Et finalement, ils arrivent à en perdre. Tu vois, là, ils auraient dû prendre 6 points. Et au final, ils en prennent que 1. Voilà. Que 1. Donc, bon, c'est dommage, hein, mais voilà. C'est Rennes, quoi. Donc après, je sais pas quoi te dire. Je suis assez dubitatif sur cette équipe, même si j'adore les voir jouer, hein. Ça joue bien. C'est très technique et très tactique aussi parce qu'ils ont un bon coach, je trouve. Voilà, mais on attend toujours plus de cette équipe. Est-ce qu'ils peuvent gêner les Marseillais? Je dirais oui, mais faut qu'ils restent sérieux et qu'ils aient pas de trou, qu'ils aient pas de trou d'air, quoi. Hein, pas comme à Lille, quoi. Voilà. Sinon là, ça va au Stade Vélodrome, ça va leur coûter cher.
Là, ça se joue à
Ah non,
Rennes.
ils jouent à domicile. Ils jouent à
Voilà, il
domicile,
joue à
pardon.
domicile.
Donc non, mais quoi qu'il arrive, faut pas qu'ils aient de trou d'air, quoi, en gros.
Ok. Alors, Steve, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Rennes, je vais te lancer sur Marseille. Merci pour cette
Juste
passe
pour enquêter sur
décisive.
Rennes,
Allez, dis-moi.
il faut juste faire jouer Désiré Doué plus en fait. Ce mec, il a de l'or dans les pieds et il joue des bouts de match et il joue des matchs pas très importants. Ou des trucs comme ça. Il a 18 ans, il faut le faire jouer. Le mec, on voit que quand il est sur le terrain, c'est un talent de ouf. Donc du coup, Rennes, faut qu'il fasse jouer un peu plus Désiré Doué, surtout quand on voit les performances parfois de certains Rennais de type Ludo Blas.
Oh, t'es dur. En plus, il marque le dernier match, Monsieur
Ouais,
Blas.
dernièrement, ça fait
Il
quoi?
marque,
Ça fait
mais il fait quelques erreurs quand même un petit peu, quoi, Blas. Hein,
ça
c'est vrai
fait,
que.
ça, 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 depuis le début de saison, il n'est pas irréprochable et c'est pas le Blas nantais que notre cher
Non.
ami Alex idolâtrait.
Je suis d'accord.
Très bien. Du coup, ça va nous permettre, on va enchaîner sur l'équipe marseillaise. Cette équipe marseillaise, bah, qui nous surprend. Qu'on n'attendait pas. Alors, Gasset, c'est le coach cette année, donc bon, il y a quand même, on compte pas Abbandonado, hein, c'est un petit intérêt, mais sur les trois coachs qui étaient là, donc Marcelinho, Gattuso et Gasset, c'est celui qui fait le meilleur départ sur les trois premiers matchs. Gasset, c'est trois victoires. Et pas trois petites victoires, c'est 4-1, 5-1 et 2-0 quand Marcelinho faisait deux matchs, deux victoires, un nul. Et Gattuso, lui, de son côté, c'était quand même deux défaites et une victoire. Alors, c'était pas les mêmes équipes, hein, puisque Gattuso, il avait quand même fait Monaco, Le Havre et Nice, quand Gasset fait Montpellier, Clermont et Nantes. Donc, certes, ce n'est pas les mêmes niveaux, les mêmes équipes, mais il faut quand même saluer son très bon début de saison. Je vais te lancer du coup sur Marseille. Est-ce que Steve, est-ce que ce troisième souffle, parce que moi je connaissais le second souffle, mais avec Marseille on a le troisième souffle. Est-ce que ce troisième souffle marseillais est le bon et est-ce qu'il sera suffisant pour faire tomber cette équipe rennaise?
Alors, je te trouve un peu réducteur avec le bilan de Gasset. Parce que certes, en Ligue 1, ça affronte Montpellier, Clermont et Nantes, mais ça va taper, ça tape le Shakhtar et ça tape Villarreal. C'est la
vrai.
Coupe d'Europe, c'est pas des matchs faciles à jouer, c'est pas des matchs sans intérêt, surtout que contre le Shakhtar, il y avait encore tout à jouer. Donc c'est assez réducteur de dire il n'a gagné que contre Montpellier et Clermont. Mais sinon, je trouve que cette équipe marseillaise a un troisième souffle, ouais, comme tu l'as dit, c'est ça n'y rien comprendre avec cette équipe marseillaise. Il y a de ça un mois, je viens sur le podcast et je les fusille. Et là, j'ai envie de dire du bien. C'est assez étonnant. On s'est rendu compte que NDI savait jouer au football. On s'est rendu compte que Balerdi savait jouer au football. Et là, on se rend compte que c'est des mecs. Quand tu les mets à leur poste et dans les bonnes circonstances, ils savent jouer au ballon. Hein, Marcelino, tout comme Gattuso, ne savait pas vraiment comment utiliser NDI. Gattuso le faisait jouer ailier droit, le faisait jouer numéro 9. Alors qu'en fait, le mec, non, c'est un 9,5 et là, il s'éclate sur le terrain. On le voit contre Villarreal, on le voit contre Nantes. Bah, ça, c'est propre ce qu'il fait. Il est intéressant à la construction, il est intéressant même contre Clermont. Il met un but un peu comme ça, de deuxième ballon qui revient un peu dans les pieds, renard de surface. C'est ce qu'il faisait à Sheffield et c'est ce qu'il va faire à l'OM si on le laisse jouer 9,5. Après, parler d'effet Gassé, c'est un peu pour enjoliver la chose. Je pense que c'est plus des joueurs qui jouent sans complexe avec un coach qui lui aussi joue sans complexe. Gassé, il n'a plus rien à perdre. Le mec, il a 70 balais. Il sait qu'il est là pour 3 mois. Et tout ce qu'il doit faire, c'est enchaîner les résultats. Sur sa fiche de poste, à Gassé, quand il a recruté, c'est écrit « Gagne les matchs, frère ». Il est juste là pour ça. Il a pas de projet à créer. Il n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire « Oh, faut que je fasse jouer un peu ce joueur, faire comme ça, l'année prochaine, on va le revendre, etc. » Il s'en fout. Le mec, il met les 11 meilleurs à leur poste. Il gagne les matchs de foot. C'est ce qu'on lui demande. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Et j'espère que cette dynamique va continuer.
Que quand même, ce que fait Gasset, on n'a pas vu Marseille gagner avec plus de 3 buts d'écart cette saison. Le max était 2 buts d'écart. Et là, Gasset arrive, il met quand même un 4-1, 5-1. Alors, encore une fois, pour moi, c'était des équipes, certes, qui proposaient moins de, on va dire, d'adversité, mais il faut quand même aller mettre 4-1 à Montpellier à domicile et 5-1 à Clermont à l'extérieur. Bref. Thibaut, on sait que Marseille, là, ils vont enchaîner un marathon assez compliqué. Alors, il y a la période de, comment dire, il y a une petite période de trêve.
La trêve, non, c'est après, il y a une petite trêve.
C'est ça, il y a la trêve internationale après ce match du week-end face à Rennes. Mais c'est vrai qu'après la trêve, bon, parce que il y a certains joueurs qui sont sélectionnés, d'autres qui restent, hein, notamment comme Chancel qui ne va pas partir en sélection, hein, qui est très bien pour l'équipe marseillaise, un peu moins pour l'équipe congolaise, mais bon. Je ne dirai rien. Dans tous les cas, Marseille vont enchaîner un très gros rythme. Donc là, ils vont jouer Rennes. Derrière, ils jouent Marseille. Ensuite, ils vont jouer Lille. Ensuite, ils jouent Nice. Après, il y a quand même Toulouse.
Il y a Paris.
Il y a Lens. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ils commencent par le PSG.
Non, t'as dit Marseille.
Lille. Ouais, pardon. Ils commencent par le PSG. Ensuite, t'as Lille. T'as Nice. Toulouse. Lens. Bien sûr, il y aura les matchs de Coupe d'Europe, donc le tirage qui aura lieu vendredi.
Dans le dur. Il rentre dans
donc,
le dur.
Ça va être un très gros rythme. On a vu contre Nantes qu'ils ont quand même une très gros, un creux en seconde mi-temps où ils avaient du mal à se procurer des occasions. C'est peut-être l'un de ces problèmes de l'équipe marseillaise, c'est qu'ils ont peut-être aussi du mal à mettre de l'intensité sur tout pendant 90 minutes. Et là, ils vont enchaîner des gros matchs. Est-ce que toi, tu penses que, avec déjà les matchs qu'ils ont enchaînés, là, la Coupe d'Europe, qu'ils ont joué, d'ailleurs, on salue leur qualification, est-ce que tu penses qu'ils auront le coffre, justement, pour faire face à cette équipe rennaise à l'extérieur?
Bah oui, effectivement, de toute façon, ce soir, je crois qu'il a mis, il a pas fait trop tourner, j'ai vu la composition d'équipe, Jean-Louis. Donc, Monsieur Gasset, il a pas fait tourner, ses effectifs, donc, je sais pas, faudra tâter le terrain, voir si ces joueurs seront en forme et pas trop bas physiquement. Moi, de toute façon, j'aime cette équipe marseillaise. De toute façon, là, sur les 5 derniers matchs, moi, elle me plaît bien. Il y a Aubameyang qui se remet à marquer. Comme je suis tout à fait d'accord avec Steve, ce qu'il dit, quand les joueurs, tu les mets à leur poste, ben, finalement, ils jouent bien. Donc, du coup, voilà, faut qu'ils continuent comme ça. Je pense qu'ils peuvent aller accrocher cette équipe rennaise, même gagner. Hein, je les vois s'imposer. Donc, après, voilà, mais. Comme je dis ça avec des pincettes, hein, parce que la dernière fois j'avais dit que Lyon était dans un bon moment, 5 victoires d'affilée, et tout de suite après ils se sont fait calmer par Lens. Donc voilà, faut quand même rester sérieux. Après, est-ce que je pense que moi ils ont l'habitude de toute façon les joueurs marseillais de jouer plusieurs matchs et garder le rythme des comme Veretout, Aubameyang, les joueurs comme ça, ils ont l'habitude de jouer plein de matchs dans la semaine. Donc c'est pas ce match-là qui va leur faire peur, je pense. Voilà, ils ont l'expérience et je pense que s'ils restent sérieux, ils peuvent aller prendre 3 points, voilà, et faire déjouer cette équipe rennaise.
Ok. Dernière petite question avant d'enchaîner sur le score, Steve. Plutôt 3-5-2 pour ce match ou plutôt 4-3-3?
Moi, je pense que ça sera plutôt dépendamment de la composition rennaise. Donc, si Jonas Stéphane reste sur son 4-2-3 pardon, habituel, ça sera plutôt le 3-5-2, parce que ça s'adapte relativement bien. Ça va faire un très gros entrejeu. Après, contre Villarreal, il a fait tourner un peu. Donc, il a fait tourner relativement, hein, parce que tu as Tamiité qui n'a pas trop l'habitude de jouer, ou Naï qui habituellement est plus un peu. Un remplaçant, il a changé quelques postes. Aubame n'a joué qu'une mi-temps, Harit n'a joué qu'une mi-temps, donc il va y avoir un peu quand même de fraîcheur, mais de joueurs qui ont les jambes pour jouer contre Rennes. Donc si cette défense rennaise joue parfois un peu trop haut, ça pourrait se faire punir facilement dans le dos. Donc je sais pas si on enchaîne sur les résultats tout de suite ou pas. Est-ce que je donne mon score ou pas?
Allez, donne-nous ton score.
Max, après toi à pleurer, on va vous taper 3-0. Allez, hop.
Allez, ça y est, il s'est enflammé.
Okay. Ah, il fallait que je m'enflamme à la fin.
Ah, j'étais, mais c'est normal.
J'étais raisonnable, j'étais machin, mais à la fin, voilà.
Thibaut, toi, ton score pour ce match?
Moi, je dis match nul, un partout. Voilà, avec... je dirais un but d'Aubameyang et de l'autre côté un but de Bourigeaud, un truc comme ça. Voilà, un partout. Et les deux équipes se neutralisent.
Ok. Tranquille, sans...
T'avais pas dit victoire de l'OM tout à l'heure?
Non, je vois un peu l'OM au-dessus parce qu'ils jouent bien en ce moment, mais ça reste quand même Rennes en face et ils peuvent poser quelques problèmes. Donc, aucune des deux équipes voudra lâcher des points, même si les deux équipes ont besoin de points. Donc, c'est pour ça que je vois un match nul et un peu calmer les ardeurs marseillaises. Voilà, tout simplement.
Okay. Donc, en fait, si Nice qui pourrait perdre contre Lens, si Marseille gagne contre Rennes, Marseille remonte sixième, quoi. Donc là, en fait, c'est un match très important pour le top 8. Ah, ça y est, parce que je vais ouvrir ma gueule. Ah, c'est. Ah.
Non mais c'est
C'est
des
dur.
matchs. Ah, je t'embête, Steve. Mais c'est vrai que ces deux matchs qui sont super importants pour le haut du classement, quoi.
Bah, c'est
Donc ça, c'est
hyper
pour ça que ça
important,
sera
ouais.
super
Ouais, tout à fait.
de voir les scores en fin de match, quoi, tout simplement.
Et justement, vous tombez bien,
Je
j'adore
pense
vos
que ce
passes
week-end, je vais mettre
décisives.
l'alerte but sur tous les matchs, hein, je pense.
J'ai hâte qu'on
Ce week-end,
ait
il y a tellement de matchs
qu'on...
intéressants, je vais mettre l'alerte but sur tous les matchs. Mon téléphone, il va bzip, 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 bzip tout le week-end.
Mais complètement, j'ai tellement hâte qu'on ait ces journées où toutes les équipes jouent en même temps, ça va être juste énorme. Bref, merci messieurs pour avoir commenté ce match. On va maintenant passer à notre tour des stades pour boucler notre podcast. Et on va commencer par le premier match de ce week-end qui aura lieu vendredi soir, donc Toulouse face à Lyon. Pareil, pour vous remettre un peu dans le contexte et ce qui s'était passé au match aller. Donc au match aller, c'était, si je me trompe pas, ouais, c'était Lyon qui s'était imposé
3-0
3-0
pour Lyon.
et Lyon qui s'est imposé 3-0 face à Toulouse, hein, donc c'était le moment où, juste en plus avant ah non, 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 c'était pas avant les vacances, c'était le 10. Mais bon, c'était le moment où Lyon se remettait tout doucement sur les voies, en tout cas qui proposait du jeu beaucoup plus intéressant. Le week-end dernier, Toulouse s'est incliné face au Havre 1-0, tandis que Lyon a gagné 2-0 face à Lorient à l'extérieur. Messieurs, Thibaut, Toulouse-Lyon, un résultat, un commentaire si vous en avez un.
Alors moi, je vois bien un match nul, pareil, un partout, Toulouse-Lyon, voilà, je vois bien un petit match nul, pareil. J'ai pas trop de trucs à dire sur ce match-là, mais je vois bien un match nul, voilà.
Steve?
Moi, je pense que pour aller sur la bonne dynamique qu'ils ont à l'heure actuelle, je pense que Lyon va vouloir continuer et essayer de marquer le plus possible. Donc, je vois bien une victoire lyonnaise avec un 2-0.
Très très bien. Sachant qu'en plus Toulouse-Lyon, c'est vraiment deux équipes, c'est deux rivaux pour le coup, puisque Lyon est dixième avec 31 points, hein, qui est sur une très belle lancée sur les trois derniers matchs, cinq derniers matchs, disons, c'est quand même quatre victoires et une défaite, et Toulouse qui est 11e à 2 points de Lyon avec 29 points et qui est sur une belle lancée de quatre victoires, trois. Pardon, victoire et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Le match suivant, Nantes contre Strasbourg. Alors Nantes contre Strasbourg, pareil contexte. Nantes-Strasbourg au match aller, Nantes s'était imposé 2-1 à l'extérieur face aux Strasbourgeois. Le week-end dernier, comme on se l'est dit, Nantes s'est incliné 2-0 face à Marseille. D'ailleurs, Steve, je t'ai pas demandé, main ou pas main?
Pas main, jamais.
Thibaut,
Et tu
main ou
sais,
pas main?
tu sais que Alex, il m'a envoyé un
Main.
message. Il a fait, ah, deux mains dans la surface, c'est pas bien de gagner des matchs comme ça. Coucou Alex.
On passe le bonjour, mon petit Alex. Donc Nantes qui s'était incliné du coup 2-0 face à Marseille au Stade Vélodrome. Et de l'autre côté, Strasbourg qui s'est incliné 1-0 à domicile face à Monaco. Donc juste pour vous rappeler, actuellement, Nantes est 16e du championnat avec 25 points, donc qui est sur deux défaites de suite, tandis que Strasbourg est, elle, 14e avec 26 points, donc il n'y a que un point d'écart, hein, on vous disait, hein, ce bas du championnat est très excitant aussi, avec bah, un nul et une défaite, Strasbourg qui n'arrive juste plus à gagner du tout. Donc messieurs, vos résultats, Thibaut.
Effectivement, ils arrivent, les deux équipes, c'est quand je vois leur bilan là, c'est un peu catastrophique. Mais Nantes, ils ont besoin de points et il faut absolument qu'ils gagnent ce match. Après les deux derniers matchs de Nantes, c'est horrible de ce que j'ai vu, hein. Bon, après ils ont joué Marseille, bon, d'accord. Mais contre Metz, c'était, ils doivent jamais perdre 2-0. Ils en ont pris deux quand même contre Metz, hein, pour dire. Donc ça va être c'est compliqué, mais ils ont besoin de points. Donc, j'ai envie de dire Strasbourg, mais c'est encore plus catastrophique de l'autre côté. Donc, je vais partir sur un match nul, encore une fois. Voilà, match nul, un partout. Voilà. Allez,
Ok.
allez, allez, bon. Nantes ou nul. Voilà, si vous voulez.
Ah, il prend des risques, on aime ça.
Bon, mais voilà, un petit avantage à Nantes quand même, mais c'est pas glorieux en ce moment. Donc, mais après, ils ont besoin de sortir de la zone de relégation là. Donc, j'espère que Gourvennec trouvera les mots et qu'ils gagneront ce match, quoi. Tout
Ok.
simplement. Donc, voilà. Si vous êtes téméraire, vous allez sur Nantes, et si vous ne l'êtes pas, vous jouez Nantes ou nul.
Ok. Et toi, Steve?
Ah, moi, j'ai pas envie de faire du mal au cœur de mon petit Alex. Donc, je vais dire Nantes, victoire nantaise sur le plus petit des scores parce que il est plus nantais que strasbourgeois. Donc, je dirais 1-0 Nantes. Comme ça, il sera content.
Ok. Très bien. Très, très bien. Match suivant, Brest contre Lille. Donc Brest contre Lille, hein, pour vous le rappeler, Lille s'était imposé 1-0 à domicile face à Brest. Actuellement, Brest est deuxième du championnat avec 46 points, hein. Brest qui a perdu son dernier match, comme on le disait, face à Lens. De l'autre côté, Lille est à 42 points et quatrième, donc à 4 points de Brest, mais voilà, elle est à égalité de points avec Lens, donc c'est très très serré, hein. C'est pareil, un week-end qu'il ne faut pas perdre, qui a fait match nul face à Rennes 2-2. Messieurs, pareil, je vous relance un résultat pour ce match, Lille-Brest, Thibaut?
Ben moi je vois bien Brest un peu lâcher quelques points maintenant, un peu baisser dans, voilà, dans le classement. Donc là il est temps de perdre un peu des matchs, monsieur les Brestois. Désolé pour les supporters de Brest,
Monsieur
mais
Roy,
je
allez,
dirais
faut arrêter les bêtises.
Monsieur Roy, c'est bon, non mais il a su redresser la barre, voilà, c'est bien gentil, ils sont bien, c'est une équipe sympa à avoir joué. Mais je vois quand même Lille s'imposer là-bas, en Bretagne. Donc, moi, je dirais 2-1 pour Lille. Voilà.
Allez. Ok, 2-1 pour Lille. Steve?
Parce que je pense qu'ils sont un peu. La Brest, ils vont commencer un peu à perdre des points. Donc, je pense que voilà, Lille peut faire quelque chose.
Ok. Après, ça fait 5-6 journées qu'on dit que Brest va craquer. Il
C'est
leur
vrai,
aura
c'est vrai.
fallu du
Et
temps
là,
pour craquer.
c'est le jour. C'est maintenant. Maintenant que ça craque.
Ok, Steve?
Depuis la J8, on dit que Brest va perdre des points.
Je
Ils sont encore deuxième du
te
championnat.
jure.
Mais Brest Lille, qui est un match qu'on aurait pu parler quand même, parce que c'est un match important pour le podium.
C'est vrai.
Malheureusement, je pense que ça va être un match relativement fermé. Parce que Brest ne voudra pas prendre de risques contre un Lille relativement joueur et contre un prétendant au podium et plus largement à l'Europe. Donc je vois au vu du match contre Lens aussi que j'ai revu plus tôt, moi je dis 1-1 ou alors un but sur corner ou un coup franc dernière minute et victoire brestoise. Mais sinon, un match nul ou victoire brestoise. Je prends pas de risque non plus.
Ok, très bien. Monaco-Lorient, donc Monaco-Lorient, au match aller, Monaco-Lorient s'était laissé sur un match nul, 2-2, donc un match rempli de buts, assez prolifique en spectacle. Monaco qui est actuellement troisième du championnat, donc à 45 points, donc à un point derrière Brest, et à 3 points devant Lille, qui est quatrième. Monaco qui s'est imposé le week-end dernier sur un petit score de 1-0 avec un très beau but de notre ami Ben Seguir sur une passe d'Akliouche. Donc la jeunesse a pris le pouvoir le week-end dernier. C'était, pour tout vous dire, un prime, pas un prime, un multiplex des plus ennuyants. L'un des plus ennuyants que j'ai pu voir cette saison, j'ai failli m'endormir devant. Mais bon, Voilà, Monaco s'en sort bien. Et de l'autre côté, Lorient qui est 15e du championnat avec 25 points, qui a perdu à domicile face à Lyon 0-2. Lorient qui a un point de Strasbourg 14e, mais surtout qui a autant de points que Nantes, qui est barragiste avec 25 points, qui est 16e. Donc, messieurs, un résultat, s'il vous plaît, Thibaut.
Victoire de Monaco 2-0, sans trembler et sans forcer. Voilà.
Ok. Très confiant, hein, très confiant. Attention, il y a quand même Mister Bamba côté l'orienté. Hein. C'est jamais ce qui peut nous sortir.
Ouh, je tremble.
Steve.
Certes, Lorient revient bien, Bamba, etc., c'est gentil, mais Monaco ne veut pas de choc l'Europe, je pense. Donc, comme l'a dit Chips, je suis d'accord avec lui, je pense une victoire
Il
nette,
gagne et il passe deuxième.
monégasque.
Ouais.
Alors,
Non, dans mon
tu
scénario
t'as dit sûr
scénario,
comme.
non, parce que
J'ai
dans mon
dit.
scénario,
J'ai
je dis.
dit.
Pardon,
Attends,
vas-y.
Steve d'abord.
Vas-y, vas-y.
Et là, dans mon scénario, moi, je vois Brest soit faire nul, soit gagner. Donc, est-ce que Monaco passe devant s'il gagne? Non. Ouais, mais bon,
Mais
pas grave, on s'en fout des
au
mâles,
pire,
victoire monégasque.
Brest est nul. Brest fait nul et Monaco passe devant avec leur victoire. Voilà.
Ok,
Comme ça,
ok.
on a tout bon. Ça va être
Et
ça
qui
le
sait,
scénario.
on pourrait peut-être voir aussi le retour de notre ami Mbolo sur le banc. À
Oh!
voir, peut-être.
J'adore ce joueur.
Un très bon joueur. Clermont-Le Havre. Donc au match aller, Le Havre s'était imposé 2-1 face à Clermont. Donc Clermont qui est dans une situation très très compliquée. Hein. Clermont qui est 18e du championnat, à 17 points, qui est à 5 points du FC Metz. Clermont qui a perdu le week-end dernier face justement au FC Metz, qui est un concurrent direct pour le maintien. Alors, ça commence à devenir très compliqué pour Clermont et leur envie et leur souhait de rester en Ligue 1. De l'autre côté, on a Le Havre aussi qui était sur une période très difficile où elle avait enchaîné 4 défaites, mais qui a gagné le week-end dernier face à Toulouse 1-0. Le Havre qui a 27 points, qui est à la 13e place, hein, donc que 2 points du premier du barragiste, pardon, premier relégable, le FC Nantes qui est 16e. Messieurs, Clermont-Le Havre, un score s'il vous plaît.
Moi, j'ai bien aimé cette équipe du Havre contre Toulouse. Alors, j'ai envie de les voir un peu prendre des points. Donc, je vais dire 2-1 pour Le Havre à Clermont et une belle petite opération. Voilà, donc je les ai trouvés très très joueurs contre Toulouse. Voilà, je les vois bien gêner cette équipe clermontoise et finir sur une petite victoire. Sachant qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Voilà.
Ok. Steve?
Moi, je pense que ouais, Lucas Elsner va essayer de remotiver ses gars pour se créer un petit matelas de points sur Nantes et Lorient. Donc une victoire havraise sur le plus petit des scores, pardon, 1-0.
Ok. Reims, mince, mais plutôt Metz, on va
Reims-Metz.
dire. C'est quand même mieux de dire Metz que mince. Alors, au match aller, Metz et Reims c'était pareil, quittés sur un match nul 2-2. Encore un match prolifique en but, hein, surtout que c'était en début de saison. À ce moment-là, Reims se battait encore dans les 5 premiers du championnat. Depuis, bah, Metz est actuellement 17e du championnat. Comme je vous l'ai dit, ils ont battu l'un des concurrents directs, Clermont. Ça leur a fait du bien puisque grâce à ça, ils ont pu revenir sur le FC Nantes qui a perdu face à l'OM. Et maintenant, ils sont qu'à 2 points du FC Nantes et de Lorient qui sont à 25 points. De l'autre côté, Reims qui vit une période très compliquée en 2024, hein, qui sort d'un Match nul le week-end dernier face au PSG 2-2. Donc Reims qui a réussi à revenir, enfin en tout cas à revenir et à repartir du Parc des Princes avec ce petit point. Mais c'est vrai qu'ils vivent une année compliquée où Reims est actuellement 9e avec 35 points. Donc ils sont maintenant à 7 points du FC Lens qui sont 5e. Messieurs, un petit score pour ce match Reims-Metz. Thibaut.
Moi, oui, je vais dire Reims gagne contre Metz et je vais rester dans l'optique du bon match qu'ils ont fait contre le PSG pour avoir vu le match et les avoir vus bien gêner nos milieux de terrain. Donc, je vais partir sur la victoire de Reims. Voilà, 2-0. 2-0.
Ok, très bien. Steve?
Pareil, victoire de Reims. Ouais, 2-0 aussi parce qu'ils vont vouloir ne pas trop se décrocher d'une possible sixième place hypothétique, je pense. Parce que derrière, le calendrier est très compliqué hein, pour Reims, hein, qui va jouer Lyon, qui va jouer Nice, etc. Donc du coup, c'est maintenant qu'il faut prendre des points. Donc du coup, je pense à une victoire du Stade de Reims.
Ok, très bien, très très bien. Et enfin, PSG face à Montpellier. Alors PSG face à Montpellier au match aller, le PSG s'est imposé 3-0 à domicile. On le sait, Montpellier, c'est voilà l'équipe qui tangue, qui se rapproche de la zone de relégation, mais qui en ressort. Actuellement, Montpellier est 12e avec 27 points. Montpellier qui s'est imposé le week-end dernier face à Nice 2-1. Donc Montpellier est à 2 points du premier, enfin du barragiste UFC Nantes qui est à 25 points et qui est 16e, mais qui est aussi en concurrence directe avec des équipes comme Toulouse qui a 29 points et qui est 11e, ou encore Le Havre qui a aussi 27 points et qui est 13e. De l'autre côté, le PSG, comme on l'a dit, a fait match nul à domicile face au Stade de Reims, hein. Le PSG qui aime faire un très gros turnover. On le rappelle, le PSG a gagné cette semaine en Coupe de France et s'est qualifié pour les demi-finales. Messieurs, un petit score pour ce match, Montpellier-Paris.
Moi, je vais partir forcément sur la victoire du PSG, 3 buts à 1. Même si Montpellier, sur les deux derniers matchs, je les trouve plutôt convaincants, mine de rien, les Montpelliérains. Hein. Mais en face, ça sera trop trop fort techniquement. Donc voilà, victoire de Paris. Et puis tout le monde sera content.
Ok, et Steve?
Attention, le PSG qui reste sur deux matchs nuls de suite en Ligue 1, peut-être qu'une mauvaise série va
C'est trois
commencer et
matchs nuls, hein.
qui
Jamais
vont
200
perdre
points.
le titre. Voilà, on sait pas. C'est le mec qui en rajoute. Non, je pense que ça va être une victoire relativement facile pour le PSG. Ça va être l'occasion de faire tourner, je pense, un peu l'effectif aussi. Parce que contre Nice, c'était une équipe relativement une, on va dire. Parce que bah, c'était même l'équipe une, bêtement. Donc, je pense qu'il va faire un peu tourner pour ce match et en prévision de la LDC et de la fin de saison.
Ok. Donc
Et victoire
une
parisienne
victoire
3-0.
3-0. Ok, merci à vous. Eh bien, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Encore un très bon podcast pour
Pas
parler
de
de notre beau
problème.
championnat. Donc, je vous souhaite un bon week-end de Ligue 1. Je souhaite un week-end de Ligue 1 Uber Eats à nos auditeurs. J'espère, et
Et
surtout le match de
bientôt
13h,
McDonald's.
bientôt. Ah là là, m'en parle pas, m'en parle pas. Terrible, terrible. On va faire tous les
Ça
fast-foods du
va être
monde.
le retour de Payet et de
Ouais,
Gignac en
je
Ligue
te jure. Un Big Mac pour Gignac. Ah
1.
là là, m'en parlez pas, c'est terrible. Bref. Encore une fois, merci à vous, messieurs. Je vous souhaite un très bon week-end de Ligue 1. Je vous souhaite un très bon week-end de Ligue 1 à nos auditeurs, à nos auditrices. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit X, Fred, Instagram, sur toutes les
Spotify.
plateformes. d'écoute Spotify, Spotify, Apple Music, Deezer. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager avec nous, à venir nous parler. C'est toujours avec plaisir qu'on vient et qu'on parle de foot avec vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'autre chose. Donc, je vous dirai rendez-vous dans 2 semaines en Ligue 1 pour parler du meilleur championnat, bien sûr, d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.